Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 10 août, la canicule s'installe, on attend 35 degrés cet après-midi à Lyon. Attention à la police environnementale qui occupe le terrain pour surveiller le respect des restrictions concernant la sécheresse. La préfecture du Rhône a placé la quasi-totalité du département en situation de crise à partir d'aujourd'hui. Plusieurs départs de feux de végétation enregistrés hier dans le département. Le quai Saint-Antoine va être réaménagé, une seule voie de circulation et à 30 km/h. Les travaux seront engagés dès ce mois d'août, alors que dimanche, une Mercedes a fait une embardée, percutant deux voitures en stationnement et une terrasse de café. Attention, le métro B ne circulera pas pendant 4 jours en ce mois d'août. La ligne automatique fermera plus tôt également durant 8 autres soirées. Comprendre les enjeux du digital, Florence Perrier a créé 8flow.green pour sensibiliser, accompagner et pérenniser les actions des chefs d'entreprise. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis nous parlons sport à la fin de cette édition avec le Loup qui va encore accueillir ses supporters au bord de la pelouse de la plaine des Jeux de Gerland demain pour un troisième entraînement en public.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La canicule s'installe dans la durée pour sa quatrième vague. Cet après-midi, 35 degrés sont attendus à Lyon. Un palier à 36 degrés devrait s'installer entre jeudi et dimanche. Les agents de la police environnementale sont sur le pied de guerre. Ils sillonnent le territoire pour surveiller le respect des restrictions. Des restrictions renforcées sur le département du Rhône à compter d'aujourd'hui. La préfecture a placé la quasi-totalité du département en situation de crise. Seul l'Est lyonnais et le Sud lyonnais se maintiennent en alerte renforcée. En revanche, Lyon est compris dans le périmètre de crise. Particuliers et collectivités sont appelés à restreindre leur usage de l'eau. L'eau du robinet ou l'eau des cours d'eau sont interdits en situation de crise. Les prélèvements de cours d'eau et forage des nappes, l'arrosage des potagers domestiques de 9h à 20h, interdit également l'arrosage des pelouses, massifs et plantes en pot, le lavage de tout véhicule même en station, interdit également le lavage des voiries et surfaces imperméabilisées, des façades et des toitures, le remplissage et la remise en eau des piscines, également interdit. En cas de non-respect de l'arrêté, les agents de l'Office français de la biodiversité sont habilités à dresser un procès-verbal et les amendes peuvent atteindre 1500 à 7500 euros. C'est une contravention de 5e classe. Les collectivités peuvent en revanche arroser les plans culturels patrimoniaux labellisés ainsi que les jeunes plantations d'arbres, mais seulement de 18h à midi. Notez que les exploitations agricoles sont soumises à des restrictions plus légères. Le Rhône, qui a été le théâtre de deux départs de feux de végétation hier, les pompiers sont intervenus une première fois vers 11h à Demartin. Un hectare d'herbe rase a brûlé. La deuxième opération a eu lieu vers 16h rue Jean Perret à Vaux-en-Velin. Là aussi, un hectare d'herbe a été la proie des flammes. Lundi, au moins 8 départs de feux avaient été enregistrés dans le département. L'incendie le plus conséquent s'était produit le long de l'autoroute A6 dans le secteur de Tapona, au nord de Villefranche.
Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Le quai Saint-Antoine va être réaménagé. Il comportera à la rentrée une seule voie de circulation pour les voitures. Un couloir sera également mis à disposition des bus et des cyclistes côté Saône. Une autre voie sera créée en sens inverse pour les vélos côté immeuble. La limitation à 30 km/h sera rendue plus visible par des panneaux et des pictos au sol. Dimanche, vers 11h du matin, une Mercedes s'était retournée, fauchant au passage deux voitures en stationnement et une terrasse de café. Heureusement, sans faire de victime, le conducteur était en état d'alcoolémie. Le métro B ne circulera pas pendant 4 jours en ce mois d'août en raison de travaux préparatoires à son extension jusqu'à Saint-Genis-Laval. La ligne B sera en arrêt d'exploitation dimanche prochain, 14 août, et lundi prochain, 15 août. Également les samedis et dimanches 20 et 21 août. La ligne automatique fermera plus tôt durant 8 autres soirées. Les TCL mettent en place des bus relais pour chaque fermeture programmée.
Lyon Demain, le média influenceur d'avenir.
Comprendre les enjeux du digital, pas évident de prendre les bonnes orientations quand on est chef d'entreprise. On a tous bien compris la nécessité de prendre un virage responsable et durable. Mais comment mettre en œuvre cette évolution? Comment faire pour que la transition numérique soit innovante et respectueuse de l'homme et de l'environnement? Florence Perrier a créé WeFlow.green pour sensibiliser, accompagner et pérenniser les actions. Une jeune société de conseil en transition numérique durable basée à Lyon. Alors comment agir sans tomber volontairement ou non dans le greenwashing? Nous avons rencontré Florence Perrier pour quelques conseils avisés.
Oui, Flow, c'est un collectif de gens qui sont investis en fait dans cette mission d'essayer de faire un petit peu évoluer le monde de l'entreprise en proposant en fait aujourd'hui une solution sur la technologie, comment faire des investissements technologiques qui soient responsables. Donc ces investissements, c'est à la fois avoir un meilleur retour sur investissement, donc utiliser, choisir le bon outil, le dimensionner à la bonne taille et puis s'assurer que tout le monde est à bord et puis donc travailler sur l'usage et la performance d'usage. Donc ça, on peut le regarder sous différents angles qui sont des angles de leadership, des angles d'inculturation, des angles vraiment de transition numérique proprement parlée, des angles de bilan carbone. En fait, en fonction des entreprises, on a une offre sur mesure qui s'adapte aux besoins des entreprises.
La transition numérique, aujourd'hui, ça apparaît comme une obligation, mais quelles sont les erreurs ?
Alors, les erreurs, c'est de ne pas le prendre dans une vision large. En fait, la transition numérique, ça ne peut pas se prendre sous un seul angle, puisque la technologie, elle peut permettre tout. Donc, à un moment, il y a des choix à faire. Et de se dire, en partant qu'on fait un tout petit angle, c'est une erreur. Il faut d'abord savoir, et donc l'idée c'est de bien comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça a comme impact de le faire, de ne pas le faire. Le coût de ne pas le faire, ça peut être aussi un choix de ne pas le faire. Donc bien avoir la vision la plus large possible et prendre ses décisions en conscience, puisque chaque investissement va avoir des conséquences. Donc ce serait l'erreur, ce serait de partir sur un choix sans se dire quels sont les autres choix possibles. Peut-être qu'à la fin, on partira sur ce choix-là, mais en tout cas, on aura une avance de phase. Et ça, c'est très important de ne pas se contenter de faire du projet à court terme, mais de toujours voir le coup d'après dans la technologie, parce que c'est des investissements. Ça peut influer la stratégie de l'entreprise, faire changer, faire évoluer son modèle d'entreprise. Donc ce n'est pas anodin, en fait, dans les impacts que ça peut avoir dans l'organisation et dans l'offre qui est faite aux clients. Donc ça ne peut pas se raisonner sur un petit angle. Même si on commence par un petit angle, il faut que ça se présente, ça se raisonne dans une vision holistique de l'entreprise, en fait.
Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour éviter justement que les entreprises se dirigent uniquement vers une espèce de greenwashing?
Donc moi, mon offre, elle est en trois points. Elle est en partie sensibilisation, donc de quoi on parle. Partie accompagnement, donc point de départ, point d'arrivée. Donc ça se mesure. Hein, c'est le principe de faire des choses, de faire un projet. On sait d'où on part, on sait où on arrive et on se donne des indicateurs de performance pour mesurer son arrivée. Et la dernière partie, c'est la partie pérennisation. Qu'est-ce que je fais pour que mon projet de transition numérique, il s'inscrive dans le temps, il embarque tout le monde, que ce soit mes collaborateurs, mes clients, donc inclusion, et il embarque aussi sur de la raison d'être d'entreprise, et puis sur de la gouvernance, sur des labels éventuellement. Et pour que ce soit pas un greenwashing, c'est que ça doit dépasser l'intention. Ne pas envoyer de pièces jointes dans un email, c'est une étape, mais c'est pas ça, c'est pas suffisant. Il y a peut-être d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus fortes qu'on pourrait faire. Faire du greenwashing, ça veut dire qu'on déclare, mais que finalement on est auto-évaluateur. Ne pas faire du greenwashing, c'est déclarer et peut-être prendre un tiers de confiance ou en tout cas publier des choses de manière totalement transparente et mesurer, parce que sinon c'est encore que de l'intention qui montre son engagement en fait dans ce sujet-là.
Ça passe par quoi ? Par faire un bilan carbone par exemple ?
De toute façon, c'est le point de départ. Le point de départ de tout, c'est un bilan de carbone, savoir où on en est. Le bilan de carbone, il peut se faire sur différents scopes, hein, scope 1, scope 2, scope 3, qui sont soit liés à sa production, soit liés à l'utilisation de l'énergie pour faire sa production, soit liés à ce que fait le produit de sa vente en amont ou en aval de sa chaîne de valeur. Donc ça, c'est le point de départ. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore que en tout cas pour les petites structures, c'est encore que une démarche volontaire. Probablement que dans les années à venir, c'est la législation qui va faire évoluer les choses, mais effectivement, ça passe par là. Si on veut ne pas faire du greenwashing, parce que finalement, on a un élément mesurable et mesuré comme point de départ, et quand on veut s'engager, parce que l'enjeu, il est là, en fait. Hein, il est de dire, si on est dans un objectif 2050 de neutralité, ça veut dire que tout de suite, chaque individu entreprise peut faire des choses et il faut que ce soit mesuré pour qu'on arrive à ce total de neutralité. Après, sur cette partie peut-être de bilan carbone, il y a aussi le fait de, aujourd'hui, la façon de mesurer certains impacts, elle est encore en phase, on se recherche, on voit bien que ça part dans toutes les directions. C'était un peu le sujet de la transition numérique il y a 10 ans, en fait. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens, donc essayons, nous, c'est ce qu'on veut essayer de faire, en tout cas d'être un tout petit peu en avance de phase, d'avoir des éléments, de la législation, d'avoir une connaissance, d'essayer de sentir ce qui va se passer pour que les entreprises, elles n'aillent pas dans toutes les directions. Aujourd'hui, les bilans carbone, en particulier d'ailleurs typiquement du numérique, c'est encore un petit peu des estimations, mais c'est un point de départ. Ça va évoluer avec le temps, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés autour de ces impacts du numérique, donc on va essayer de les normaliser. Il y a des instituts de recherche qui travaillent dessus, typiquement l'INRIA qui est en train de donner des normes, donc ça va aller dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, On commence le chemin, mais notre recommandation et notre volonté, en fait, c'est d'embarquer le plus de gens possible dans ce chemin-là, qui est imparfait, mais en tout cas, on veut y aller.
Les transitions numériques responsables, ça passe non seulement par le chef d'entreprise, mais aussi peut-être par les équipes.
Ah bah c'est pour ça que tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on veut commencer par la sensibilisation, parce que le chef d'entreprise fait déjà beaucoup, parce que c'est le chef d'entreprise déjà qui positionne son entreprise. C'est aussi comme ça qu'il attire ses talents, ou comme ça qu'il fidélise, ou qu'il attire ses clients. Donc ça, c'est une chose. Et puis le chef d'entreprise, c'est lui qui donne le pulse, hein, c'est lui qui donne la direction. Mais aujourd'hui, les équipes, mais c'est pas les équipes qui vont changer. Les équipes, elles changent à titre individuel, mais pour que les équipes changent à titre collectif, il faut aussi que l'entreprise, le chef d'entreprise, il autorise ses équipes à prendre cette posture-là. Donc c'est une sorte de direction. Alors, on dit aujourd'hui qu'une entreprise sans engagement, ni responsable, ni écologique, ni sociétale, elle aura du mal à recruter des collaborateurs ou des clients dans l'avenir, mais il faut que ce soit réel, il faut que ce soit une vraie volonté, sinon on repart dans le greenwashing. Et après, les équipes, c'est un peu l'inverse, c'est que souvent aussi dans les entreprises, c'est les collaborateurs qui disent, mais moi, je veux regarder, je veux faire ça, je veux faire ça, et finalement, le chef d'entreprise, il n'a pas trop le choix que d'y aller aussi. Donc, pour le coup, c'est une démarche gagnante-gagnante.
Florence Perrier, rendez-vous sur le site weflow.green. Dans la foulée de son titre à Varsovie, Caroline Garcia a eu moins de chance sur le continent américain. La Lyonnaise s'est faite sortir dès le premier tour du tournoi de Toronto, battue par sa compatriote tricolore Alizé Cornet. Garcia espère beaucoup de cette tournée américaine qui se poursuit avant l'US Open, qui aura lieu du 29 août au 11 septembre. Caroline Garcia va devoir encore s'adapter à la surface rapide et au climat chaud et humide. La Lyonnaise va se rendre à Cincinnati pour un tournoi qui se déroule du 15 au 21 août, et également enchaîner à Cleveland pour le tournoi qui se déroule, lui, du 21 au 27 août. Le Loup va encore accueillir ses supporters au bord de la pelouse de la plaine des Jeux de Gerland pour le troisième entraînement en public depuis fin juillet. Ce sera demain, jeudi, de 10h30 à midi. Une séance commune avec l'USBPA, le club de Bourg-en-Bresse, club de National. Le groupe lyonnais sera presque au complet. Une belle préparation avant le stage en Corse du 15 au 20 août où les Lyonnais logeront à Bastia. Les Rouges et Noirs affronteront Montpellier le 19 août en amical. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.